Macro-Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Micro-Rebelle Hebdo, diffusée tous les vendredis de 18h à 19h sur notre site www.micro-rebelle.fr et rediffusée sur Radio PFM 99.9 à Arras. Au programme cette semaine, un reportage sur la mobilisation pour l'augmentation des salaires jeudi 27 janvier avec l'opération tractage de la CGT, puis la chronique média de Lucien, l'agenda social et culturel, et enfin un reportage sur le rassemblement en solidarité avec le peuple malien, sans oublier la musique libre. Samedi 22 janvier, un rassemblement en soutien avec le peuple malien s'est tenu à Lille à l'initiative du CSP59, du collectif Afrique et du FUIQP. Soutenu par l'Association des étudiants et étudiantes maliennes, Micro Rebelle a tendu son micro à trois participants participantes, l'occasion de revenir sur la situation politique et sociale du Mali et sur les raisons de cette solidarité populaire. Le 14 janvier, une foule immense de personnes manifestait à Bamako, la capitale malienne. La raison de cette forte mobilisation, les sanctions prises par la CEDEAO quelques jours plus tôt envers le Mali. Fermeture de ses frontières, gel des avoirs, embargo. Qu'est-ce que la CEDEAO ? La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une organisation intergouvernementale créée en 1975 avec un rôle initial économique et de maintien de la paix sur son territoire. La situation de guerre dans laquelle se trouve le Mali actuellement remonte à 2012, avec l'arrivée de groupes terroristes dans le nord du pays, puis l'installation de troupes armées françaises connues sous le nom d'Opération Barkhane. Pour parler de cette histoire et de la situation politique actuelle, nous avons rencontré plusieurs personnes lors d'un rassemblement en solidarité avec le peuple malien, organisé à Lille, samedi 22 janvier, à l'initiative du collectif des sans-papiers 59, du collectif Afrique et du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, événement également soutenu par l'Association des étudiants maliens. Nous avons donné la parole à Fodero Landiagne, l'un des organisateurs, et Seydou Koulibaly, membre de la communauté malienne, qui reviennent avec nous sur les prémices de cette guerre au Mali.
Voilà un pays qui, depuis bientôt une dizaine d'années, est complètement a été infesté de djihadistes, de terroristes et de séparatistes, parce qu'on en parle moins, très clairement. Et ce pays a décidé progressivement de faire appel en fait, à ses amis, pensant avoir des amis, qui était la France, qui était effectivement le groupe, le G5 Sahel, comme on dit, qui était l'AMINISMA, donc effectivement l'organisme représentatif de l'ONU en tant que tel. Et ces armées, depuis une dizaine d'années, sont là sur le terrain. Et plus ils sont là, plus elles sont là, plus effectivement les djihadistes, les terroristes continuent à sévir dans le pays.
En fait, ces djihadistes, comme on les a appelés, ce sont des militaires, enfin des anciens soldats de l'armée libyenne qui a explosé avec l'assassinat, enfin la mort de Kadhafi. J'appelle ça assassinat, mais on va être modéré, avec la mort de Kadhafi. Oui, mais une fois éliminé, c'était la pagaille. Ça créait une pagaille dans l'armée libyenne qui a implosé, donc tout le monde est parti. Les cadres, les officiers supérieurs, tout. Et voilà que ces gens-là, ils ont pris la route. Et ils se sont servis avec il y avait du matériel à disposition, des engins de guerre. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont arrivés au Mali. Le Mali aurait dû leur imposer le désarmement. Posez les armes, je vous accepte. Après, ils ont revendiqué... Allez, avec la complicité des séparatistes, parce qu'il y a Fodé parlait tout à l'heure des séparatistes, en fait, il y a un mouvement Touareg qui est là depuis quelques années aussi. Donc ils se sont alliés avec ces Touaregs-là pour s'implanter d'une façon, avec parfois des conflits entre eux. Hein. Un djihadiste, c'est quelqu'un qui fait la guerre de religion. Or, ils n'avaient rien de religieux. Ce n'étaient pas des musulmans, comme on veut bien le dire. Ce sont des militaires d'abord. Comme ils se réclament djihadistes, ils ont commencé à créer une terreur dans la population. Vous n'êtes pas musulman ? Allez, on vous égoutte. Vous êtes obligé d'être musulman. Eux-mêmes, ils n'étaient pas musulmans pratiquants parfois. Hein. Mais à travers la religion, ils ont terrorisé la population. Une jeune fille, comme en Afghanistan aujourd'hui, une jeune fille qu'on voit dans la rue avec un garçon avec lequel il n'est pas marié, boum, on la tape, on l'oblige à mettre le foulard, bref. Donc toute cette situation confuse dans le Nord a abouti à avoir des groupes terroristes, djihadistes, enfin un mélange indéfinissable, hein, qui s'est répandu après dans tout le pays aujourd'hui. Tout le Mali est concerné par ce phénomène parce que les bandits en ont profité pour s'allier avec tous ces gens-là.
Pour comprendre la situation politique actuelle, revenons 2 ans en arrière. Au printemps 2020, de fortes mobilisations secouent le pays en réaction à la politique menée par le chef du gouvernement Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, élu en 2013. Un mouvement d'opposition voit le jour, le M5-RFP, à savoir Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, qui appelle à de nombreuses manifestations. 2 mois plus tard, le 18 août 2020, un groupe de militaires à la tête duquel le colonel Assimi Goïta arrête le président IBK qui démissionne le lendemain. Les putschistes créent un comité national pour le salut du peuple, CNSP, et nomment un gouvernement de transition. Ban Dao comme président et Mokhtar Ouane comme premier ministre. Le 24 mai 2021, Assimi Goïta déclenche un second coup d'État, car insatisfait de la politique menée par le gouvernement de transition qu'il a lui-même nommé. Il est resté depuis à la tête des autorités maliennes. C'est d'ailleurs suite à ce coup d'État que le Mali est exclu de la CEDEAO.
Est-ce que vous avez un peu des retours de ce que des gens du peuple malien revendiquent en fait, là-bas sur place?
Le peuple malien, c'est clair, hein, il revendique effectivement que non aux sanctions actuelles de la CEDEAO. Il rejette complètement ces sanctions-là. Il soutient effectivement la transition avec l'objectif prioritaire dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir libérer le pays, unifier le pays.
Est-ce que vous pouvez revenir sur les sanctions de la CEDEAO pour le Mali qui sont en vigueur depuis quelques semaines ?
Les sanctions de la CEDEAO, on peut les résumer en quelques mots. C'est 1. Fermer les frontières maliennes. 2. Bloquer les avoirs du Mali. 3. Geler les avoirs du Mali aussi, très concrètement. 4. Empêcher le Mali d'emprunter dans les institutions financières, effectivement, telles qu'internationales, en tant que telles. Donc, ce sont les principales mesures. Or, aucune de ces mesures ne peut relever en tant que telle, effectivement, de la CEDEAO. C'est lui au moins, c'est-à-dire l'Union économique monétaire, en fait, qui est la zone CFA, dans laquelle le Mali participe depuis 1984, très clairement, après avoir une période, effectivement, d'indépendance relative par rapport, en fait, au monétaire, sa propre monnaie en tant que telle. Eh bien, c'est Lyon-Bois qui peut effectivement éventuellement prendre de telles décisions qui seraient de toute façon fallacieuses et inacceptables de ce point de vue.
Pour comprendre la raison de telles mesures qui touchent avant tout la population, il faut remonter aux assises nationales de la refondation de l'État malien mise en place en décembre dernier par le gouvernement d'Assimi Goïta. Cette série de consultations auprès de la population a rendu ses conclusions le 30 décembre, demandant le report des élections gouvernementales prévues en février de cette année à 5 ans. Les raisons invoquées sont l'impossibilité de tenir des élections dans la situation d'insécurité que vit une partie de la population, avec la présence de terroristes, ainsi que la priorité donnée aux autorités actuelles, militaires, de combattre ces groupes djihadistes. C'est donc le 9 janvier à Accra, au Ghana, que la CEDEAO a réagi à la décision de ses assises en sanctionnant très fortement le Mali, avec l'appui de la France.
Et il est clair que les peuples ne peuvent pas accepter ça, y compris la diaspora ne peut pas accepter ça. C'est pour ça qu'on a appelé à ce rassemblement aujourd'hui, pour dire ensemble, non, on n'accepte pas effectivement ces mesures effectivement répressives de la part de d'autres pays frères effectivement du Mali, qui sont représentés par des gouvernements qui sont complètement des gouvernements, je dirais, apatrides. Hein. Il faut les qualifier comme tels qu'ils sont. C'est le gouvernement apatride qui peut prendre une telle décision, quoi, très concrètement.
La réaction des peuples. Parce qu'il y a le peuple malien, il y a les autres peuples des autres pays. Le Mali a quand même une dizaine de frontières. Alors, dire qu'il faut fermer les frontières du Mali avec ces pays-là, c'est de la bêtise. Alors, la population de ces pays dont le Mali est coupé réagissent à leur tour, refusent cette décision de la CEDEAO. Je vois d'ailleurs un panneau de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, ils disent non à la décision de la CEDEAO. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple malien, qui est un peuple très fort, qui donne parfois l'impression d'être soumis, mais réagit et réagira avec force. Parce que les fermetures de frontières, c'est impossible à mettre en pratique.
Le Sénégal, c'est impraticable la sanction. Le Sénégal dépend, c'est 500 milliards de francs CFA qui vont disparaître dans l'économie sénégalaise s'il y a des sanctions entre le Sénégal et le Mali. Je rappelle qu'effectivement, c'est la principale porte de sortie du Mali vis-à-vis effectivement de... Là, le Mali est en train de diversifier. Le premier avion de Skype Mali va ouvrir effectivement une nouvelle ligne aujourd'hui même, ils inaugurent une nouvelle ligne entre Bamako et Conakry. Donc la possibilité de que la Mauritanie aussi soit une porte d'entrée pour ravitailler effectivement le Mali aussi en tant que tel, et sans compter l'Algérie qui est au nord, très concrètement, qui est aussi, c'est par là que les Russes sont passés pour venir effectivement aider l'armée malienne. C'est par là que les Russes sont passés. Donc c'est clair, c'est des sanctions qui sont vouées à l'échec en tant que tel, d'autant plus qu'à la frontière sénégalaise, depuis une semaine, il y a des populations qui viennent à la frontière sénégalaise pour protester contre effectivement les sanctions.
Ces sanctions imbéciles qui nous sont imposées injustement, eh bien, ces sanctions n'iront pas loin. Je vous ai dit tout à l'heure, aussi bien le peuple malien que les peuples des pays frontaliers refusent ces sanctions. C'est vrai, les commerçants sénégalais, ivoiriens, les frontières sont bloquées par les camions de marchandises à la frontière ivoirienne et malienne.
Quel est aujourd'hui le lien entre, d'après vous, CEDEAO, France? Est-ce qu'il y a politiquement des choses qui vont de l'un à l'autre?
Mais c'est clair, le peuple malien le dit dans les manifestations, la manifestation où des millions et des millions de Maliens sont sortis la semaine dernière, pour dire effectivement qu'ils condamnaient en fait ces sanctions qui sont prises par la CEDEAO, concrètement quoi, à ce niveau-là. Et il est clair que les chefs d'État effectivement de la CEDEAO, moins un, parce qu'il y a au moins quelques chefs d'État qui n'étaient pas là à ce sommet, qui a décidé effectivement de sanctionner. Buhari n'était pas là, du Nigeria. Très clairement, en tant que tel. Ouéa n'était pas là non plus, ainsi que le Libéria. Libéria et la Sierra Leone n'étaient pas là, en tant que tel, très clairement. Sans compter la Guinée, Conakry, et bon, la Guinée qui est aussi menacée par la CEDEAO. La Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO. Elle a quitté la CEDEAO il y a longtemps, très clairement. Quoi. Donc voilà, il est clair que ces chefs d'État-là sont couchés face effectivement au dictat et à la volonté de Macron, tout simplement aujourd'hui, ou hier effectivement de Hollande. Très honnêtement, je veux dire, voilà l'enjeu tel qu'il se pose effectivement à ce niveau-là. Quoi. Et c'est vrai que l'enjeu fondamental de ce qui se déroule en fait aujourd'hui au Mali, c'est un enjeu africain. Parce que quelque part, c'est la première fois qu'il y a une menace sérieuse sur ce qu'on appelle le précaré français, c'est-à-dire France-Africain. La France-Afrique jusqu'à présent régnait sans coup férir et sans aucune contestation quasiment. Eh bien là, pour la première fois, des peuples se lèvent et disent, voilà, l'exemple hier, il y a eu effectivement une répression contre une manifestation de solidarité avec le peuple malien au Burkina Faso. de la part de Roch Kabore, quoi, très concrètement, qui lui était à ce sommet-là, en tant que tel. Qu'est-ce qui va se passer si les populations effectivement, de la Côte d'Ivoire descendent dans la rue face à Alassane Ouattara, qui est un peu la tête de file de toutes ces sanctions, en réalité, très clairement, pour dire effectivement que non, solidarité avec le peuple malien, etc.
Les pays d'Afrique ne sont pas maîtres chez eux. Je veux dire, bon, les dirigeants sont, j'allais dire, des petites mains de la France. Il faut, parce que les cinq qui ont décidé au niveau de la CEDEAO, mais c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la France. Hein. Le président actuellement au pouvoir, c'est la France. C'est grâce à la France qu'il est là. Et il faut que les Français sachent. Et ça, c'est parce qu'on ne le dit pas. Lorsque Total exploite du pétrole au Gabon, lorsque Total exploite du pétrole au Nigeria, lorsque Total exploite... Mais les gens, il faut qu'ils prennent conscience que le pays ne profite pas de ça. Le pays ne profite pas. Au contraire, ils polluent les terres. Les terres sont polluées parce qu'ils ne prennent pas les mesures qu'il faut pour protéger les sols. Il y a des milliers d'hectares au Nigeria qui sont incultivables à cause du pétrole. Ça, c'est aussi un phénomène économique qu'il faut dénoncer. Au Gabon, le Gabon qui produit aussi du pétrole, Elf Gabon. Vous savez, Elf Gabon, c'était le bras armé de la France, le bras économique armé de la France en Afrique. C'est-à-dire toutes les recettes de Elf Gabon, c'était la France qui embauchait. La France, depuis un moment, est en difficulté au Mali. D'ailleurs, monsieur le président a décidé de retirer les troupes. Pourquoi ? Parce qu'il voit qu'il n'arrive pas à résoudre le problème des djihadistes, volontairement ou involontairement. Moi, j'ai rencontré un jeune des forces Barkhane ici à Léquin, au mois d'octobre, qui était revenu pour les 4 ou 6 mois, parce qu'ils sont obligés de faire une coupure. Il m'a dit clairement, je ne sais pas ce qu'on fout là-bas. Mais il dit, je ne peux pas le dire parce que je suis militaire. La grande muette. Mais tout le monde se rend compte que ça ne sert à rien. La France, a dit dernièrement qu'elle retirait les soldats. Mais non, elle ne les retire pas. Elle les redéploie. Ce n'est pas la même chose. Elle les redéploie là où elle a des intérêts fondamentaux, vers la frontière du Niger. Vous savez que la France exploite de l'uranium au Niger. Alors, pour que les centrales nucléaires tournent, la France est obligée de protéger cette zone-là.
Il y a des parties du territoire dans lesquelles sont présents, par exemple, l'armée française, mais l'armée du pays, les FAMA, l'armée malienne ne peut pas accéder. Par exemple, Kidal, on l'empêche d'accéder, effectivement. L'État ne peut pas accéder à Kidal. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Donc, ce sont ces interrogations qui ont débouché sur, effectivement, cette prise de volonté, cette volonté exprimée du peuple malien de dire, ben, y en aura le mal, on va trouver, effectivement, les moyens de nous libérer par nous-mêmes. Pour cela, on va élargir, exercer notre droit souverain, d'élargir les alliés. Et c'est comme ça qu'ils sont adressés aussi à la Russie. Et c'est depuis qu'ils sont adressés à la Russie qu'on constate, en fait, que concrètement, là où, en fait, il y avait une sorte d'acceptation, en fait, de la transition jusqu'à présent, eh bien, tout d'un coup, on commence à dire, bon, tiens, des sanctions contre le peuple malien, contre le Mali.
Qu'est-ce que vous pensez du fait que, si ce n'est pas des militaires français, ce seraient des militaires russes ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que finalement ça peut mener dans les mêmes impasses ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
L'idéal, c'est d'avoir des militaires maliens, pour tout dire. La solution, c'est des militaires maliens, des vrais, une vraie armée malienne. Bah oui, bien formé, hein, avec des moyens, bon, c'est pas le cas. À choisir entre les deux, bon, je rappelle que le Mali a son indépendance en 1960, s'était rapproché de l'URSS. Oui, il faut le rappeler ça. L'URSS n'est pas arrivé comme ça. J'ai un copain qui est chirurgien, qui est à la retraite. Il a fait ses études en URSS. D'autres ont fait leurs études en URSS. Les militaires actuellement au pouvoir ont été formés en URSS. Donc le Mali a des liens historiques avec l'URSS.
Mais est-ce que vous pensez réellement que ces militaires ou mercenaires, je ne sais pas comment les appeler, est-ce que vous pensez qu'ils viennent uniquement pour aider le peuple malien et l'armée malienne, ou est-ce qu'il y a, comme pour finalement l'armée française, des arguments un peu...
Quel que soit le pays, aucun pays n'agit sans intérêt. Mais oui, ce n'est pas des philanthropes. Si la Russie intervient, c'est qu'elle a un intérêt à intervenir au Mali. Parce qu'elle veut occuper le terrain abandonné par la France. Parce que si la France avait joué le jeu depuis l'indépendance, on appelle ça le néocolonialisme, ce qui est même pire que le colonialisme. Bah oui, il faut le dire. Et honnêtement, la situation, elle est tellement confuse que d'abord, il faut poser les choses clairement. Il faut revenir à une démocratie qui a existé pendant 20 ans et qui a été démolie suite à un coup d'État. Mais il faut revenir au principe de la démocratie comme on l'a connue. Il y a des institutions au Mali. Il y a des institutions, il y a une constitution malienne. Oh, mais la constitution malienne date de au moins de l'installation de la démocratie depuis 90, dans les années 90.
Quel est l'espoir de changement du coup au Mali avec toutes ces personnes?
Ben, l'espoir, il est dans les deux camps. Hein. Il est du côté des Maliens d'abord, parce que moi, je crois fondamentalement à la puissance du peuple malien, parce que le Mali s'est toujours relevé et il va se relever parce que le Mali, historiquement, d'abord c'était un empire, hein, bon, sans aller dans le détail, donc le peuple malien est très fort.
Lors de ce rassemblement à Lille, nous avons également rencontré Awa Djabira, mauritanienne, venue au rassemblement lillois par solidarité avec le peuple malien, avec les pays africains et surtout avec les femmes du continent.
Je pense que chaque pays a le droit d'avoir, je ne dis pas le dernier mot, mais d'avoir son mot à dire quoi, concernant l'avenir de son pays. Donc je trouve, je suis venue les soutenir parce que j'aimerais bien qu'on les laisse s'exprimer, qu'on les laisse avancer.
Vous pensez notamment au fait qu'il y a des puissances comme notamment la France qui essayent de prendre des décisions à la place du gouvernement malien ou du peuple malien, c'est à ça que vous pensez ?
Ben oui, il y a ça, mais il y a aussi l'intérieur de l'Afrique tout simplement. Les États d'Afrique, ils doivent se soutenir, ils doivent connaître l'intérêt de chaque pays. C'est surtout, moi en fait, c'est surtout les pays africains qui doivent être aujourd'hui des vrais adultes, quoi.
Vous pensez notamment à la CEDEAO qui a mis des restrictions au niveau du Mali ?
Oui, je me demande pourquoi. Pourquoi ils ont fait ça ? Et qu'est-ce qu'ils reprochent au peuple malien pour faire ça ? C'est quoi leur but, en fait, la CEDEAO ? C'est quoi son but ? Et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ? Au contraire, il faut aider les pays à se développer. Tout ça empêchera les jeunes de prendre des bateaux, de venir mourir en mer. On doit plutôt encourager les pays à se développer, à donner du travail à leurs enfants, aux enfants du pays, des écoles pour que les enfants étudient, des dispensaires. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans ces pays-là, voilà, ils sont tellement serrés. Et pourtant, il y a de la richesse. Il y a une richesse qui peut vraiment permettre à ces pays de se développer et que chacun puisse manger à sa faim. Donc tout ça, c'est une injustice, quoi. Nous, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est voilà, qu'on laisse l'Afrique se développer. Donc moi, je compte beaucoup sur les femmes, enfin, pour ce genre de choses. Que l'Afrique, ils ont pris leur indépendance en 1960. Et on est en 2022. C'est incroyable.
Et d'après vous, qu'est-ce que les femmes ont un peu en plus, entre guillemets, qu'est-ce qu'elles pourraient permettre comme émancipation?
Déjà, l'éducation. Parce qu'il y a certains peuples du Mali, comme en Mauritanie, au Sénégal, où la femme n'a pas beaucoup droit à l'éducation. Je ne dis pas qu'elle ne va pas à l'école. Hein. Elle va à l'école, mais il y a des pays encore où la femme, elle va arrêter rapidement ses études parce qu'elle doit se marier. Du coup, tout ça, ce n'est pas juste parce que... C'est d'abord l'instruction, qu'elles se soutiennent entre elles. Parce que dans tous les pays d'Afrique, les femmes, elles sont vraiment très courageuses. Elles sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Donc ça, tout le monde le sait. Elles sont partout, elles sont dans le développement. Et ici, en Europe, du fait qu'elles n'ont pas beaucoup étudié, ça, pas tout le monde, hein, il y a certains pays où la femme, elle a beaucoup étudié. Moi, je pense que l'avenir, c'est la participation de la femme. Donc, au sein de la politique, et puis voilà, elles sont là, elles essayent de parler un peu plus fort pour qu'elles les entendent. Elles subissent beaucoup d'injustices, hein. Il y a beaucoup d'injustices, c'est parce qu'on ne dit pas tout. Hein. Quand tu vas dans certains pays d'Afrique, quand il y a la guerre, ce sont des femmes qui sont violées, qui sont tuées, mais ça, on n'en parle même pas assez. Je trouve ça injuste. Et il y a certains pays, la femme, elle n'a pas beaucoup de droits, même être présidente d'une association, c'est bientôt banni, quoi. Où elle doit... Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et aujourd'hui, donner un peu la possibilité à ces femmes d'étudier, d'avoir des soins, et puis d'avoir aussi la parole, au fait, dans les réunions, dans les assemblées. Voilà, ça commence un peu, mais bon...
Un grand merci à Fodero Landiagne, Seydou Koulibaly et Awa Diabira. Un reportage réalisé par Elsa de Micro Rebelle, avec les musiques de Ali Farka Touré, Toumani Diabaté, ainsi que Oumou Diabaté.
web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Vous êtes toujours dans l'émission Micro-Rebelle Hebdo, en direct sur notre site internet et rediffusée sur Radio PFM 99.9 à Arras. On vient d'entendre le morceau « Grito y Plata » de l'artiste chilien Nando Garcia sur son album « Pirueta ». Je vous propose à présent l'agenda social et culturel de la semaine. Samedi 29 janvier 2022 à 15h, « L'Empire ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique ». C'est une rencontre avec Hamzat Boukhari Yabara, historien et militant panafricaniste, et Thomas Deltombe, co-directeur de l'ouvrage « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique ». Ça se passe où ? Au café coopératif Les Sarrasins, 52-54 rue des Sarrasins, à Lille. Samedi 29 janvier à 20h, White Mouse en concert au Lac de Liévin. Ce sera de 20h à 23h30 au lieu autogéré. Ouverture des portes à 19h30. Plus d'infos sur le site www.lelag.fr. Mardi 1er février à 14h, grève à Pôle emploi. Si vous êtes dans les alentours de Lille mardi, vous pouvez prêter main forte aux salariés du Pôle emploi de Villeneuve-d'Ascq pour faire entendre leurs revendications, parmi lesquelles revaloriser les salaires et les traitements, stopper la dégradation des conditions de travail, redonner du sens au travail pour améliorer la qualité du service public, augmenter les salaires et les traitements, une détente du calendrier de déploiement des plans d'action et une mise à l'arrêt de l'empilement des projets pour redonner du sens au travail. Le lieu du rassemblement, c'est au Pôle emploi, 28 rue Élysée-Reclus, à Villeneuve-d'Ascq, donc mardi 1er février à 14h. Mercredi 2 février à 18h30, comme chaque mercredi, même endroit, même heure, manifestation pour la défense des personnes sans papier à Lille. Mercredi 2 février, toujours au Café La Moulinette, soirée Colombie, le peuple en résistance, carajo! Projection, échange et information sur la situation en Colombie. C'est donc le mardi 2 février à 19h30 à Lille. Jeudi 3 février à 18h30, au tiers-lieu La Chaufferie, conférence débat, jardiner sur un sol pollué, avec l'intervention de Brice Louvel du laboratoire LGCGE. Ça se passe donc à La Chaufferie, 5 rue Jean-Raymond de Grève. Toujours jeudi 3 février à 18h30 au Café Les Sarrasins. Marre des spams, envie de mieux protéger vos données personnelles. En février 2022, Endemic organise un mois du numérique libre pour mettre en avant les logiciels libres. Voilà, c'est la fin de cet agenda social et culturel. On enchaîne tout de suite avec un reportage sur la mobilisation pour l'augmentation des salaires avec une opération tractage de la CGT à Liévin, jeudi 27 janvier.
Bonjour, bon courage.
C'est quoi ?
Pour les salaires. Vous travaillez, monsieur ?
Non, non.
Pas encore, vous cherchez du boulot ?
L'année prochaine, je suis étudiant, là.
Bon, ok, bon courage. Bon courage. À bientôt. Ouais.
Alors, David Pochet, syndicat des CGT des territoriaux de Liévin. Alors, nous sommes le 27 janvier. Nous sommes à Liévin, au rond-point de l'Europe, où on mène une action pour l'augmentation des salaires suite à l'augmentation de tous les prix de carburant, d'énergie, de produits de première nécessité, où le pouvoir d'achat ne suit plus. Et donc, il faut impérativement que les salaires augmentent pour que les gens puissent arriver à s'en sortir à la fin du mois.
Bonjour, moi je m'appelle Nadège Poli, je suis la secrétaire générale, la coordination syndicale CGT, c'est-à-dire de la fonction publique territoriale.
Et Nassira Djedi, donc membre du bureau de la coordination syndicale départementale.
Alors, l'action d'aujourd'hui, c'est qu'on a, on a prévu 2000 tracts. Notamment, je veux dire, il y a Claire de la Santé qui est juste à côté, qui distribue sur la fonction publique hospitalière et sur la santé. Nous, on a distribué un tract sur le pouvoir d'achat. Donc, il y a 2000 tracts aujourd'hui qui sont distribués. Alors, les raisons, c'est un appel à la grève et à la manifestation nationale sur le pouvoir d'achat, parce que bah, depuis quelques années, alors notamment, on va parler un peu plus de notre corporation qui est la fonction publique, notamment notre pouvoir d'achat, bah, le gel du point d'indice. Depuis 15 ans, notre gel du point d'indice, alors on appelle ça, c'est l'augmentation des salaires, pour être un petit peu plus clair, parce que bon, c'est, je dirais, c'est des termes de chez nous. C'est que si le gouvernement ne décide pas d'augmenter les fonctionnaires, c'est-à-dire le point d'indice, il n'y a aucune augmentation du pouvoir d'achat chez nous. Un fonctionnaire, lorsqu'il rentre, ou un contrat dans une mairie ou dans un établissement public, il est payé en dessous du SMIC, ce qui est illégal. Donc aujourd'hui, à partir, comme je dis, du 1er janvier, alors on a eu peut-être certains fonctionnaires ont eu la prime des 100 euros, mais ils vont avoir une revalorisation de leur salaire. Mais nous, la CGT, on dit que c'est insuffisant. Il faut revoir l'ensemble de toutes les grilles indiciaires, il faut revoir le pouvoir d'achat, il faut revoir les conditions de travail, je veux dire, parce qu'avec le Covid, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là aussi, c'est qu'il y a un ras-le-bol. On a vu bah, l'éducation nationale il y a quelques temps dans les rues, il y a le roi Merlin, je veux dire, avec toutes les dividendes que les patrons se font sur notre dos, le roi Merlin a manifesté et ils ont réussi à avoir une négociation salariale. Pourquoi pas, nous les fonctionnaires, de remettre tout à plat, en plus c'est bientôt les présidentielles, de remettre tout à plat et d'avoir une augmentation nette, franche, surtout que la CGT demande un salaire net à 1 800 euros.
Et s'ajoute à ça, donc plus globalement, finalement, le pouvoir d'achat de tout le pays, finalement, on le voit avec l'augmentation des prix de l'essence, l'augmentation du coût de la vie dans sa globalité. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une démonstration de force pour demander la revalorisation salariale de tous en France.
Madame, bonjour. On est en mobilisation pour l'augmentation de tous les salaires. Vous avez plusieurs thématiques, la fonction publique, le pouvoir d'achat, il y a la santé qui est là aussi.
Okay,
vous merci. En pensez quoi?
Je suis avec vous.
Eh ben merci.
Bon courage.
Merci à vous aussi, bonne journée.
Bonne journée.
Alors moi je suis Claire Aimée Parmentier, je suis aide-soignante en psychiatrie, enfin médico-sociale, c'est pour les personnes en situation d'handicap très très lourd. Et je suis syndiquée depuis quelques années et je représente la santé dans le département. Je gère tout ce qui est la santé dans le département, santé et action sociale. Pour refaire la chronologie, on a eu les directions qui ont fait une manifestation le 30 novembre. Et c'était pour sur le thème de la crise des métiers de l'humain, parce que notre champ professionnel, on va être en très très grande précarité dans quelques temps, parce qu'on n'arrive plus à attirer les salariés, les jeunes, tout ça. Donc au niveau de la pyramide des âges, on est quand même beaucoup de soignants d'un certain âge, hein, soignants, éducateurs, même au niveau de l'administratif, tout ça. Hein. Je ne parle pas que des soignants, je parle vraiment de tous les secteurs des métiers dans notre champ professionnel. Donc aujourd'hui, c'est le secteur général parce que bah, la santé s'intègre bien dans les préoccupations, parce qu'il y a des fonctionnaires, donc il y a le gel du point d'indice. Pas seulement dans les hôpitaux, mais il y a des fonctionnaires aussi au niveau de l'action sociale pour prendre en charge les personnes en situation d'handicap.
Ça en est où aujourd'hui le Ségur ?
Alors pour la fonction publique, dans les hôpitaux, s'il y a des EHPAD, les salariés ont eu le Ségur depuis un certain temps. Donc nous à la CGT, on n'est pas signataire parce qu'on a dit que c'était un caractère trop discriminant au niveau du Ségur. Comme je suis dans les négociations nationales, maintenant on a demandé la transposition du Ségur sur les établissements autonomes du monde de l'handicap non rattachés à un établissement public et non rattachés à une EHPAD. Le Ségur, on l'a eu que pour les soignants, infirmières, aides-soignantes et AMP une fois au mois d'octobre, parce que dans le Pas-de-Calais, c'est à partir du 1er octobre. Comment les ARS ont donné un accord de principe aux directions pour le paiement pour les salariés, sans prendre la part patronale. Donc là, les directions attendent. Enfin, moi, je vois mon établissement, la Masse Les Champs Dorés de Cervin, le directeur nous a payé le Ségur. Il n'a pas touché sa part patronale et là, il ne peut plus payer parce qu'il n'a pas reçu l'argent de l'État.
Pour revenir sur le secteur de la santé, puisque c'est quand même un secteur dont on a beaucoup entendu parler depuis le début de la crise sanitaire, on a l'impression qu'en fait, quoi qu'il se passe, en face, il y aura une sorte de mépris vis-à-vis des travailleurs et des travailleuses. Finalement, ce qui vous reste comme outil, c'est la mobilisation et la grève. Est-ce qu'il y a encore des espoirs quand même de pouvoir améliorer la situation ?
Bah, là, de toute façon, le gouvernement, c'est un rouleau compresseur qui nous arrive. Son but, c'est que tout soit réglé pour les élections. Il dénonce tout, en fait, contre les conventions collectives, tout va être dénoncé. On va se retrouver vraiment avec... on va perdre tous nos acquis sociaux. Il faut que les salariés puissent... se réveillent. Je vais dire qu'ils se réveillent. Qu'ils puissent, parce que là, en fin de compte, on est dans l'entre-soi. Hein, et c'est, les salariés n'arrivent pas à comprendre que leur avenir dépend quand même de la mobilisation et puis du rapport de force qu'on va avoir avec le gouvernement.
Il y a les salariés, puis finalement, il y a l'ensemble de la population qui est concernée par le système de soins. Est-ce que tu as l'impression que finalement, les patients, patientes, enfin, toutes les personnes qui vont à l'hôpital, qui sont en EHPAD, qui vont dans des foyers où les proches de ces personnes-là se rendent compte de la situation et ont envie de vous accompagner dans cette lutte ?
Alors, les familles se rendent compte de la situation, mais ils sont quand même... Alors, ils nous soutiennent, hein, ça, il n'y a pas de problème, hein, mais ils ont tellement peur parce que les nouvelles directives, en fait, comptent directive européenne, c'est de désinstitutionnaliser que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes en situation de handicap. Donc, les familles, c'est ça, ça les inquiète, ils nous soutiennent, mais maintenant, il va falloir quand même qu'on aille plus loin.
Bonjour. On vous donne de la documentation, on demande de l'augmentation du pouvoir d'achat. La baisse du prix du gasoil, du coût de la vie.
De tout. Super, merci beaucoup.
Merci madame. À vous, bonne journée.
Et aussi bien donc énergie. Donc au niveau de l'énergie, on peut dire que aujourd'hui, comme EDF a été, privatisé, tous les actionnaires qu'ils ont racheté EDF se permettent d'augmenter l'énergie. Alors qu'avant, l'État pouvait avoir une action sur EDF pour bloquer justement cette augmentation. Le capitaliste, donc, en veut toujours plus, d'accord ? Donc les actionnaires, on leur donne toujours plus, et donc c'est toujours les pauvres, et donc les salariés qui, tous les citoyens et les Français de bas de classe, qui payent justement ce qu'ils ont besoin pour vivre. Et c'est eux qui payent le prix fort parce que ils sont sans armes par rapport à ces augmentations.
Quels sont les arguments en face ? Qu'est-ce que l'État répond à vos revendications ? Pourquoi il n'augmente pas les salaires d'après lui ?
Le gouvernement nous répond « Aujourd'hui, il faut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. » Quand on aura supprimé 120 000 postes de fonctionnaires, alors on a vu les dégâts dans les hôpitaux, je veux dire au moment de la Covid, on a vu les dégâts dans les tribunaux qui sont engorgés, dans les perceptions où il n'y en a plus, je veux dire qu'il faut faire des kilomètres. Et le gouvernement nous répond, lorsqu'on supprimera 120 000 postes de fonctionnaires, on pourra revoir, étant donné qu'il y aura moins de monde, on pourra peut-être revoir vos salaires à la hausse. Voilà, tout simplement.
C'est une question budgétaire, simplement, pour eux, mais les calculs sont mauvais.
Donc ça veut dire qu'on peut augmenter les salaires si on met des gens à la porte, quoi.
C'est ça, voilà.
Alors il y a quelques années, on se souvient, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui, pour des revendications assez similaires, a vu le jour et a duré plusieurs années. Là, il y a l'ONG Oxfam qui a sorti un rapport récemment qui montre à quel point les grosses richesses se sont très très enrichis sur la crise sanitaire alors que les foyers les plus pauvres se sont appauvris. Comment, avec un tel constat, on peut continuer à avoir ce discours, je pense au gouvernement évidemment, mais sur le fait que c'est toujours aux travailleurs, aux travailleuses de se serrer la ceinture?
Il est plus simple de marteler, je dirais, les gens d'en bas, comme on dit, hein, je veux dire, il est plus simple de marteler les gens d'en bas parce que, on dit, voilà, effectivement, nous, on est obligé de travailler, on n'a pas des rentes, on n'a pas des maisons, on n'a pas, je veux dire, on spécule pas à la bourse. Il faut savoir que sur un plan national, il y a 1% des grosses fortunes qui dirigent aujourd'hui le plan national. Donc, il est préférable de marteler les petits plutôt que d'aller embêter les gros. Et nous, on explique, nous, à la CGT, je veux dire que non. C'est avant tout la plus-value, la richesse, c'est les ouvriers, c'est les fonctionnaires, c'est les travailleurs qui se lèvent tous les jours au matin. C'est même les chômeurs, je veux dire, qui essayent de trouver un emploi tous les jours. Les gilets jaunes, je veux dire, c'est nous qui faisons la richesse de la France. Mais ça, le gouvernement ne veut pas l'entendre.
Là, on voit que vous êtes quelques-unes, quelques-uns sur le rond-point. L'idée, c'est de tracter et d'informer un peu les conducteurs et conductrices de ce qui se passe. À votre avis, quelle est la tendance générale? Est-ce que l'ensemble des gens est plutôt à soutenir cette action, à être d'accord avec les revendications? Quel est votre point de vue là-dessus?
Alors, aujourd'hui, je pense que oui. La population commence à en avoir plus que... ras-le-bol de toutes ces augmentations, et à part, on va dire, quelques exceptions, mais les gens nous soutiennent. Alors, bien sûr, eux, ils sont peut-être là en voiture, qui roulent tout ça parce qu'ils travaillent, parce qu'ils n'ont peut-être pas vraiment les moyens de pouvoir faire grève, mais on sait qu'ils nous soutiennent, et petit à petit, on arrivera à faire une mobilisation énorme pour que au moins le gouvernement bouge, quoi.
Ouais, on entend là, il y a certaines voitures qui klaxonnent, c'est un signe de soutien.
C'est un signe de soutien, oui, oui. Toutes les véhicules qui klaxonnent, justement, c'est pour nous soutenir.
Aujourd'hui, du coup, 27 janvier 2022, journée nationale de grève et de mobilisation. Est-ce que cette journée, d'après vous, est suivie au niveau de la grève et au niveau de la mobilisation?
Oui, alors elle est suivie au niveau de la grève et de la mobilisation. On sait qu'il y a de nouveau une journée d'action le 31 mars pour la fonction publique, où là on aura les hospitaliers dans la rue, l'État et les fonctionnaires territoriaux. Je pense que là, ça va marquer le coup dans les esprits.
Vous en pensez quoi?
Tout va remonter, donc vous n'avez pas fini de manifester.
Et ben voilà. Hein.
Nous venons d'entendre David Pocher, secrétaire général CGT des territoriaux de Liévin, Nadège Poli, secrétaire général de la coordination syndicale CGT de la fonction publique territoriale, Nassir Adjedid, membre du bureau de la coordination syndicale CGT départementale, et Claire-Aimée Parmentier, aide-soignante en médico-social et représentante CGT Santé pour le département. Ce reportage est réalisé par Elsa pour Micro-Rebelle. Et voilà, c'est bientôt la fin de notre émission Micro-Rebelle Hebdo. Avant de se quitter, on termine avec la chronique média de Lucien.
Nous poursuivons nos chroniques médias avec l'idée, pour Micro-Rebelle, de renforcer sa participation au mouvement pour la mise en œuvre d'une autre information. Aujourd'hui, nous nous intéressons au sondage paru dans le JDD, le journal du dimanche, cette semaine. Alors la question qui était posée, c'était la suivante. D'une manière générale, diriez-vous que vous avez tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance dans les institutions suivantes, les hôpitaux, l'armée, la police, l'école, la justice, les élus, les médias? Alors si on rassemble d'un côté les tout à fait confiance avec les plutôt confiance et de l'autre les pas du tout confiance avec les plutôt pas confiance, on obtient les résultats suivants. Tout au sommet de la confiance, il y a 86% des personnes interrogées qui ont confiance dans les hôpitaux, 85% qui ont confiance dans l'armée, 79% qui ont confiance dans la police et 79% également qui ont confiance dans l'école. Ensuite, c'est la dégringolade dans la pyramide de la confiance. 46% des personnes interrogées n'ont pas confiance dans la justice. 66% n'ont pas confiance dans les élus. Et enfin, pour la lanterne rouge, 72% n'ont pas confiance dans les médias. Alors pour cette chronique, c'est cette dernière donnée qui retient notre attention. 72% des personnes interrogées n'ont pas confiance dans les médias. On peut rapprocher ce sondage du JDD, du baromètre du journal La Croix. Chaque année, en janvier, le journal La Croix publie son baromètre de confiance des Français dans les médias. Réalisé par l'Institut d'études Kantar, cette 35e édition du baromètre confirme une tendance observée depuis plusieurs années, une augmentation de la méfiance envers les médias et un désintérêt croissant des sondés envers l'actualité. Dans ce baromètre, seulement 44% des personnes interrogées estiment que les médias fournissent des informations fiables et vérifiées. Et 62% des sondés estiment que les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique. Les médias traditionnels, radio, journaux et télévision, sont les médias les plus crédibles, respectivement 49% pour radio et journaux et 44% pour le petit écran. Internet inspire une méfiance plus importante. Seulement 24% des sondés jugent les informations présentées sur ce canal d'information comme sérieuses et crédibles. Revenons sur cette question de l'indépendance des médias. Je viens de l'évoquer, 62% des sondés estiment que les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique. Et au-delà du pouvoir politique, les Français interrogés estiment à 91% qu'il est important ou essentiel que les médias conservent leur indépendance des milieux économiques. À ce propos, on l'a évoqué la semaine dernière, en ce moment c'est la commission du Sénat concernant la concentration des médias. Et cette commission a auditionné plusieurs grands patrons de presse tels Bernard Arnault ou encore Vincent Bolloré. Celui-ci a notamment déclaré qu'il n'avait aucune visée politique. Ses intérêts seraient purement économiques en investissant dans les médias. Rappelons en conclusion que Vincent Bolloré s'est acheté en 2016 le groupe Canal+, auquel appartient la chaîne d'information CNews, anciennement iTélé. Après s'être débarrassé de plusieurs journalistes et chroniqueurs indésirables à ses yeux, il en a fait une tribune pour Zemmour et ses positions d'extrême droite. Il rachète ensuite Europe 1, Paris Match et le JDD à Lagardère. Il est enfin également propriétaire du groupe Prisma, qui édite Femme Actuelle, Gala, Voici, Géo ou encore Capital. Et il est de plus propriétaire de Editis, comprenant les éditions Le Robert, La Découverte, Bordas et Nathan. Autant de menaces sur l'information, on en a déjà parlé, mais également sur la culture.
Ça y est, Micro Rebelle, l'hebdo touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos.